France Culture, le Book Club, Nicolas Herbault.
Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous retrouver le midi pour le club de lecture de France Culture. Alors merci pour votre fidélité. Nous poursuivons ensemble notre mission, vous donner envie de lire et de découvrir les grands auteurs et les grands penseurs. Ce midi, nous allons donc lire Pascal, Blaise Pascal et plus particulièrement les pensées. Enfin, essayez car avant de le lire, il faut remettre un peu d'ordre. Un peu comme une maison qu'on aurait commencé à construire sans établir clairement les plans. À l'occasion des 400 ans de la naissance du mathématicien et philosophe, nous nous replongeons dans ces brouillons. Combien de pensées au juste contiennent les écrits de Pascal? Dans quel ordre faut-il les lire? A-t-on enfin trouvé cet ordre définitif ou l'ordre original voulu par l'auteur? Pour esquisser des réponses, on accueille nos invités dans un instant, mais aussi les lecteurs et lectrices du Book Club.
Je lisais toutes les réflexions les unes à la suite des autres jusqu'à en trouver une qui me parle. Malheureusement, c'était systématiquement les plus désespérantes.
L'homme ne peut se suffire à lui-même sous peine de se retrouver face à une épreuve vraiment insupportable, un tête-à-tête avec soi-même et la contemplation de son propre néant.
Peut-être qu'à la fin, j'aurais trouvé la grâce, mais le risque était trop grand de dépérir définitivement.
France Culture, le Book Club, Nicolas Herbault.
Et les voix de Cyril et Elodie, membres de notre club de lecture. Bonjour Marianne Alphand.
Bonjour.
Vous êtes romancière, essayiste, critique littéraire, vous avez travaillé à Libération et vous avez dirigé aussi les revues parlées du Centre Pompidou. Vous rééditez aujourd'hui votre Tombeau pour un ordre qui a été publié chez Hachette Littérature en 1998 et qui reparaît donc aujourd'hui aux éditions POL en format poche, où vous publiez d'ailleurs la plupart de vos livres. Vous avez longtemps, Marianne Alphand, écarté l'idée d'écrire sur Pascal, malgré, si je dis pas de bêtises, les sollicitations des éditeurs, à commencer par celle de Paul Tchaïkovski-Lawrence. Qu'est-ce qui vous a décidé à l'époque ?
Oui, Pascal est une espèce de figure immense. Et même si, j'avais toute la formation philosophique, j'avais tout bien fait, j'enseignais la philo, etc. Pour moi, c'était un univers qui était trop intimidant, qui était trop grand pour moi. Donc, je commence par refuser la proposition de Paul Tchaïkovski-Lawrence au moment où il crée cette petite collection qui était l'édition des textes classiques avec des préfaces d'auteurs. Je lui dis non. Et je l'aiguille sur un autre texte. Il me dit bon, on verra après. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, c'est Benoît Chantre qui dirigeait une collection avec, à nouveau, un écrivain ou un philosophe qui parlait d'une de ses lectures. Et là, bon, terrifiant, il y avait Rancière qui avait écrit sur Mallarmé, etc. Donc je lui dis non. Et en fait, ce qui sans doute m'a permis de céder ou d'accepter, c'était l'exemple de Lafuma, de Louis Lafuma, à qui on doit un tournant, sans doute, de l'édition de Pascal, et qui raconte dans ses préfaces qu'il n'avait aucun titre à s'occuper de Pascal. Simplement, il avait été, on le sait maintenant, il dirigeait les éditions, enfin disons les papeteries, les grandes papeteries navarres, Lafuma, etc. Et au moment de la guerre, bon, il est juif et donc il est, on va dire, spolié. Et donc il se trouve avec du temps devant lui. Et alors qu'il n'a aucune formation philosophique, enfin dit-il, il pense qu'il va s'occuper simplement de la partie matérielle. C'est-à-dire des papiers. Des papiers de ces fameux fragments qui avaient été enfilés en liasse, qui avaient été ensuite désenfilés, qui avaient connu une existence, disons, on va dire, très extraordinaire.
Oui.
Parce que quand même, bon voilà, de siècle en siècle, on s'occupe d'essayer de les remettre en ordre. Et voilà, je me suis dit, bon, s'il ne s'y connaissait pas du tout, peut-être que je peux faire comme lui, et bon, je ne vais pas retourner évidemment au papier, mais je vais parler des fragments et de la lecture.
Alors justement, on va en parler durant cette émission. On va rentrer dans le détail d'ailleurs de ce que représentent vraiment ces écrits et ces manuscrits. Et pour relire ensemble et remettre un tout petit peu d'ordre et échanger également, nous avons convié Laurent Thirouin. Bonjour, merci d'être avec nous à distance, en direct.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à l'Université de Lyon. Vos travaux sont principalement consacrés à l'œuvre de Pascal. Vous dirigez également le séminaire sur les pensées qui se tient entre Lyon et Clermont-Ferrand et vous publiez une réédition, là aussi augmentée, de Pascal ou le défaut de la méthode, lecture des pensées selon leur ordre. C'est aux éditions Honoré Champion. Il y a beaucoup d'écrivains contemporains d'ailleurs qui continuent de citer Pascal. Vous dites, vous Laurent Thirouin, que la question la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on lit encore aujourd'hui Blaise Pascal selon vous.
C'est quelque chose d'ahurissant. C'est un auteur qui n'aurait théoriquement pas dû rester dans les mémoires. Et quand il meurt, un de ses amis, Pierre Nicole, se lamente qu'il ne restera rien de lui. Et donc, quand on compte, comme le fait Marianne Alphand, quand on regarde de l'extérieur cette aventure éditoriale, il y a de quoi être ahuri. Et donc, tout ça est venu de la décision lentement mûrie et en fait assez difficile de ses descendants, de ses amis, du comité de Port-Royal, de publier quelque chose de lui. Donc ils ont tout inventé. Ils ont inventé le titre, ils ont inventé un ordre, ils ont donné naissance à une œuvre. Et donc ça, c'était en 1670. Et depuis 1670, on ne fait que corriger, reprendre la première édition de ce qui était un ensemble disparate et reconnu comme tel dès le départ, hein, puisque le titre, je le rappelle, mais c'est assez connu, le titre bien de pensée n'est pas de Pascal. Pascal ne s'est jamais donné le ridicule d'écrire « mes pensées ». Non, ce sont des pensées de M. Pascal sur la religion et quelques autres sujets qui ont été trouvés après sa mort parmi ses papiers. Donc c'est un titre à rallonge, comme on les aime au XVIIe. Et cette série de pensées, nous, on l'a progressivement transformé en « les pensées de Pascal », ce qui est déjà une grosse transformation de l'œuvre. Et c'est devenu cet ouvrage de référence que c'est aujourd'hui et que rien ne pouvait annoncer en 1662 quand meurt Pascal.
Alors, on va voir évidemment comment ces documents, ces manuscrits sont arrivés jusqu'à nous. L'objet de ces écrits, vous l'avez dit en partie, Laurent Thirouin, c'est donc cette apologie de la religion chrétienne. Et c'est ce que a retenu notamment notre lectrice Élodie et qu'on va écouter.
C'est en 1654, Blaise Pascal, il a 30 ans à ce moment-là, qu'il va traverser une importante crise spirituelle. Cet épisode va le conduire à se concentrer sur la religion. Il va se convertir au jansénisme et se retirer à Port-Royal où il pourra nourrir sa réflexion philosophique. En réalité, ce que nous dit Pascal, c'est que le bonheur que l'homme croit éprouver ne lui appartient absolument pas. Il ne dépend que du monde extérieur. Autrement dit, dépourvu des apports du monde extérieur, ce qu'il nomme divertissement, l'âme de l'homme, elle est vide. Oui, car il ne peut se suffire à lui-même sous peine de se retrouver face à une épreuve vraiment insupportable, un tête-à-tête avec soi-même et la contemplation de son propre néant. Pascal va donc parier sur l'existence de Dieu, ce qui va servir aussi de point de départ au XXe siècle à l'existentialisme. En pariant sur Dieu, l'homme a tout à espérer et rien à perdre. Mais en ne pariant pas sur Dieu, il n'a rien à espérer et tout à perdre.
Alors évidemment, il y a débat sur est-ce qu'il fait une apologie ou non de la religion. Mais d'abord, comment est-ce qu'on en arrive à ces pensées? Il y a une forme dans la vie de Pascal, Marianne Alphand, de point de bascule, de conversion dans sa vie personnelle?
On peut dire ça comme ça. En fait, il y a sans doute eu plusieurs étapes de conversion. Une première à l'époque où il est à Rouen avec son père, ses sœurs, etc. Et occupé en gros à fabriquer sa machine arithmétique et à tenter des expériences de physique. Il y a certainement d'autres moments dramatiques dans sa vie. Dramatique, c'est le départ de sa sœur avec laquelle il est très lié, Jacqueline, qui devient religieuse à Port-Royal contre sa volonté à lui. Et puis cette fameuse expérience qu'on appelle aujourd'hui, dont on a la trace dans ce fameux papier qu'on a trouvé, sur ce fameux papier qu'on a trouvé dans son habit après sa mort, et qu'on appelle le mémorial, où il retrace les épisodes d'une espèce de nuit de 2 heures, en tout cas, d'illumination et de bouleversement. Voilà, donc ce sont des crises successives, et qui vont, bien sûr, provoquer, alors, première chose, un renoncement aux sciences, et un renoncement à la place qu'il occupe dans le milieu scientifique, et donc on voit dans les correspondances des uns et des autres, on le recherche, et on dit « Monsieur Pascal, mort à la géométrie ». Bon, personne ne comprend. Mais je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Laurent Thyroin à propos de la longévité extraordinaire de la lecture. Vous disiez, Laurent Thyroin, que c'était ahurissant. Effectivement, c'est ahurissant, parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la question d'une apologie de la religion chrétienne soit, et encore, Pascal n'utilise pas ce mot d'apologie, mais soit quelque chose qui soit d'actualité. Et donc, c'est sidérant de voir à quel point Pascal est là.
Laurent Thyroin, sur l'idée de cette conversion, et alors certains disent apologie ou non. D'ailleurs, ça vient d'où cette idée d'apologie? Est-ce que c'est l'équipe de Port-Royal qui a un peu poussé, et si vous pouvez d'ailleurs nous préciser qui sont les membres de l'équipe Port-Royal, si on peut dire?
Oui. Alors, je réagis.
Allez-y.
Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Marianne Alphand, mais j'en tire une conclusion légèrement différente. C'est très surprenant, en effet, qu'une apologie nous intéresse autant, mais c'est la preuve que ça n'est pas une apologie. C'est bien pour ça que ça nous intéresse aussi. Alors, le comité de Port-Royal, c'est des gens qui avaient travaillé avec Pascal au moment des provinciales, qui l'avaient un peu assisté. Donc, il y a Antoine Arnaud, il y a Pierre Nicole, il y a la famille même de Pascal, il y a son ami le duc de Rouanet. On va dire c'est un petit groupe, une dizaine de personnes qu'on connaissait un peu comme les Pascalins et qui ont cherché ensemble la manière de donner forme à ce livre. Mais je reviens à l'idée d'apologie parce que le mot d'apologie non seulement n'est pas utilisé par l'entourage de Pascal, mais il n'est même pas utilisable à cette époque. On ne parle pas d'apologie de la religion au XVIIe siècle du tout. Et en fait, l'invention du mot d'apologie pour Pascal, il faut attendre le XIXe siècle. C'est uniquement à partir de Victor Cousin qu'on s'est mis à considérer que Pascal préparait une apologie. Et quand Victor Cousin reprend ce terme d'apologie, enfin le choisit, dans son esprit, c'est tout à fait pour desservir les pensées. C'est pour montrer que ce livre n'a pas du tout l'intérêt qu'on lui prête, que c'est en fait une espèce de catéchisme, et que c'est un livre anti-philosophique. Donc autant il faut aimer Platon, autant il faut aimer Descartes, autant il faut détester Pascal, en tout cas le Pascal des pensées. Car Victor Cousin, avec une vision qui aujourd'hui nous fait sourire, explique que les provinciales sont un chef-d'œuvre absolument impérissable, qu'on ne les oubliera jamais, et que les pensées sont vouées à disparaître dans un très très proche avenir. Donc c'est évidemment pas ce qui s'est passé. Et alors, le problème, c'est pas tant de dire apologie, parce que ça n'est qu'un mot. Le problème, c'est de savoir ce qu'on met derrière. Or, tous les gens qui disent apologie utilisent un mot qui n'est pas du tout de Pascal, qui n'est pas de son entourage, qui n'est même pas du XVIIIe siècle. Et en plus, ils ne mettent pas la même réalité derrière. Alors évidemment, si Pascal nous passionne encore aujourd'hui, c'est que ça ne ressemble pas à ce que beaucoup de gens ont dans la tête quand ils disent « apologie de la religion chrétienne ».
Ça veut dire que, c'est ce que disait Marianne Alphand il y a quelques instants, il y a à ce moment-là, dans sa vie, dans ses écrits, un abandon total de la science pour la religion tout de même. Est-ce que c'est ce qu'on ressent?
Moi, ce qui me frappe beaucoup, avec un petit peu maintenant le temps parce que j'ai passé aux côtés de Pascal, je représente un petit peu le pôle symétrique de Marianne Alphand, quelqu'un qui a passé sa vie avec Pascal et qui, probablement trop de temps et avec trop peu de distance. Mais maintenant, ce qui me frappe, c'est que le refus n'est pas tant celui de la science que de la gloire scientifique. Pascal ne veut plus de la notoriété. Il a toujours été chrétien. Donc quand on parle de conversion, on parle d'approfondissement. D'approfondissement en plusieurs étapes. Il n'y a pas de doute, l'étape de Rouen, l'étape de la nuit de feu, et puis sans doute encore une étape dans les dernières années de sa vie. Mais ce qui marque cette avancée de Pascal, dans, on pourrait dire dans une spiritualité plus sentie, plus profonde, c'est l'abandon du souci de la notoriété. Et un désir même, un désir paradoxal d'obscurité. Si bien que quand il est amené à faire un concours mathématique, après sa nuit de feu, il le fait pour des raisons qui ne sont plus des raisons véritablement de notoriété scientifique. Pascal voudrait disparaître. C'est peut-être aussi un autre paradoxe qui rend cette œuvre ahurissante, c'est que c'est une œuvre qui n'existait pas à la mort de son auteur et dont son auteur ne voulait pas qu'elle existe, d'une certaine manière. Et donc, de même qu'on a volé le mémorial dans la doublure de Pascal, il n'avait jamais évoqué ce texte. Et personne ne le connaissait avant qu'un domestique ne le trouve à l'intérieur d'un de ses habits. Mais de la même manière, cette œuvre est une œuvre volée. Et donc, elle a peut-être ce caractère d'authenticité. Il n'y a pas de posture. Pascal ne prend jamais de posture. Bon, il voulait, évidemment, il préparait un livre. On ne sait pas lequel. De toute façon, on ne le saura jamais, le livre n'est pas paru. Mais il ne travaillait pas pour la galerie. Il ne cherchait pas à se faire reconnaître. Et il y a dans cette espèce de choix incroyable de sa propre disparition, il y a une sorte de dynamique de force qu'on éprouve toujours quand on le lit.
Marianne Alphonse, vous avez le même regard sur cette œuvre-non-œuvre.
Oui, œuvre-non-œuvre. On peut dire qu'il a complètement... Il a complètement raté son coup s'il souhaitait, au fond, disparaître. Mais il y a, je pensais à cet autre petit papier que sa sœur Gilberte retrouve après la mort de Pascal. Elle s'étonnait et elle souffrait un peu parce qu'il est mourant chez elle, il est très malade, et puis c'est chez elle qu'il va mourir. Et elle trouvait qu'il était très froid avec elle, qu'il refusait ses soins, etc. Et elle découvre ce papier où Pascal écrit « Il est injuste qu'on s'attache à moi. Je ne veux pas qu'on m'aime. Je ne veux être la fin de personne. » Bon, alors là, encore une fois, cette espèce de passion très, très partagée pour Pascal, d'ailleurs tout Pascal, c'est-à-dire, bon, là, évidemment, nous parlons des pensées, mais on peut dire qu'il y a une sorte de passion collective aussi pour les provinciales, bon, et pour la figure de Pascal.
On dira un mot des provinciales tout à l'heure.
Voilà, et donc on peut dire que c'est en soi un miracle que ce livre existe, et c'est un autre miracle qu'il continue à nous passionner.
Est-ce qu'on peut décrire très concrètement à quoi ressemble ce manuscrit ? Ce sont des petits bouts de feuilles qui traînent par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on retrouve au moment de la première publication, si on peut dire, Marianne Alphonse ?
Alors, ce qu'on a retrouvé, semble-t-il, parce que les proches disent un amas de petits papiers, etc., ce qui fait que pendant très longtemps, par exemple, on a cru que Pascal écrivait comme ça, il jetait des pensées sur des petits bouts de papier. Bon, non, pas du tout, il écrivait sur des feuilles, il séparait il distinguait les pensées, si l'on peut dire, par des traits, et à un moment de sa vie, il était déjà assez malade, il les découpe, il les met, il en constitue des liasses qu'il coud ensemble, et on pense que ces liasses étaient suspendues dans son cabinet. Et à sa mort, on défait les liasses. Et là commencent les errements, si je puis dire, parce que il semblerait qu'on ait recopié les liasses à mesure qu'on les défaisait. Puis il y avait des papiers qui n'étaient pas encore attachés en liasses, et ensuite une espèce d'autre. Si je puis dire, mini-catastrophe, c'est que ses proches ont un souci quasi religieux de ses restes, ce sont des reliques. Et donc, ils vont penser à les coller sur un grand registre. Mais ils vont les coller d'une façon, un peu aléatoire, comme ça convient sur une feuille, en remplissant les vides, les marges, etc., avec des papiers très, très disparates. Et c'est ça que découvre Victor Cousin quand il va à la bibliothèque, qui n'est pas encore la Bibliothèque nationale, ce qui va le devenir. Il est stupéfait de voir, au fond, cette espèce de fouillis, de chaos. Bon, et donc ça va entraîner un autre type d'édition. Et voilà, donc il faut imaginer que nous avons des restes, nous avons des débris, nous avons des fragments, mais formés en en liasse. Et justement, Laurent Thirouin a très bien parlé de ces liasses et de la façon dont on pouvait peut-être chercher un ordre.
Vous dites, Laurent Thirouin, lire Pascal, c'est une lente acceptation d'un brouillon, la résignation à une ébauche. Il y a un premier ordre et au fur et à mesure des siècles, on a sans relâche essayé de déchiffrer, d'affiner cet ordre, de le modifier, de le bousculer, de remettre ces liasses en état. C'est tout à fait déconcertant au fur et à mesure des siècles. Est-ce qu'on lit des choses qui sont différentes finalement ?
Oui, alors je dirais d'abord c'est exaltant parce qu'il y a très peu d'œuvres de cette importance qui permettent un réel progrès objectif d'un point de vue positiviste. C'est-à-dire que le Pascal aujourd'hui qui est le nôtre, en 2023, est un Pascal beaucoup plus sûr, beaucoup plus authentique que celui dont pouvait... Que pouvait dire Voltaire, par exemple, dans les lettres anglaises, ou que celui que pouvait lire Chateaubriand quand il parlait d'un effrayant génie. On sait beaucoup plus de choses. Et on continue encore à progresser. Alors, c'est assez compliqué à expliquer, mais c'est tout à fait faisable. Alors, je rajouterai une chose à ce que vient dire Marianne Alphand. Le recueil original, donc ce gros volume sur lequel sont collés les petits papiers de Pascal, a un avantage absolument incroyable, qu'il faut quand même
souligner, oui.
Souligner, qu'il faut rappeler, c'est que ça nous permet d'avoir les manuscrits d'un écrivain du XVIIe siècle à une époque pré-romantique où le manuscrit n'a pas de valeur. Aujourd'hui, on garde tout d'un écrivain, tellement on est intéressé par ses paperolles, par ses hésitations. Au XVIIe, on détruit dès que l'œuvre existe. L'ébauche de l'œuvre n'a pas d'intérêt par rapport à l'œuvre. Avec Pascal, ben pour une double raison, d'abord parce que l'œuvre n'a jamais existé, et ensuite, pour reprendre les termes de Marianne Alphand, parce que c'était considéré comme des reliques, on a gardé ces papiers. Et donc, on a tout. On a les ratures, on a les hésitations, et on a parfois, ce qui est extraordinaire, je ne prendrai qu'un exemple, parce que celui-là me tient particulièrement à cœur, on a des mots qu'il commence à écrire, et puis au moment même où il les écrit, il se rend compte que le mot ne va pas. Et donc, il le remplace par un autre mot. Et donc, on le voit, on entre un peu à ses côtés, et on le voit rejeter une notion, alors une qui nous intéresse particulièrement ici, c'est un texte qu'il s'apprête à intituler « Division ». Et il écrit « Divi » et il s'arrête. Mais non, ça n'est pas du tout « Division » que je veux. Ce mot ne va pas. Et donc, sans même avoir fini d'écrire « Division », il écrit à la place « Ordre ». Ce qui nous montre déjà une chose, c'est que pour Pascal, dire « Ordre », c'est rejeter la notion de division. À un autre endroit, il parle des divisions de Charon qui attristent et ennuient. Donc, bien sûr, Pascal, qui n'a laissé aucune œuvre précise, qui n'a pas donné véritablement forme au livre qu'il préparait et dont on ne connaît ni le titre, ni le sujet, ni la fonction, dont on ne sait rien, Pascal a quand même laissé des papiers qu'il a mis dans un ordre.
Et un texte.
Et ça, c'est cet ordre qui nous passionne.
Un texte, une pensée qu'on voit presque en train de s'écrire, comme vous le décriviez. Alors, est-ce qu'on peut se tromper dans la lecture de Pascal, Marianne Alphand, ou alors on a le droit de tout s'autoriser, de sauter des liasses, de revenir en arrière, d'ouvrir le livre n'importe où, de zigzaguer, bref, de faire un peu sa propre expérience, sa liberté à soi de lecture.
Oui, alors je crois que quand on n'est pas spécialiste, hein, comme Laurent Thirouin, mais
parce que Laurent Thirouin le ferait pas, je pense.
Voilà, non, quoique, non, c'est une lecture, ça peut être une lecture complètement en zigzag, parce que c'est une hantise aussi, Pascal. On l'a lu pour la première fois au lycée, on le relit, on le retrouve, il est cité, etc. Et donc quand on cherche on pense tout à coup à, je ne sais pas, mettons, le silence éternel, ces espaces infinis mais frais. Bon, on y pense parce que, Valérie a fait un commentaire très, très désobligeant sur ce fragment. Et on se dit, où est-il ? Et à ce moment-là, on ne le retrouve pas. C'est le problème de ces montages, si je puis dire. C'est que, comme il n'y a pas d'ordre, d'une certaine façon, les pensées sont numérotées et quand on les cherche, on ne les trouve pas. J'évoquais à propos de à propos de cette espèce d'égarement. Hein. Du coup, un égarement qui suscite une autre forme de fascination. On est libre, voilà, on circule, on reprend, on abandonne, on répète. Mais j'évoquais dans ce livre un détail, mais qui avait compté pour moi, c'était dans ce film de Romer, qui est un film très pascalien, Ma nuit chez Maud, où il y a deux fois, une fois c'est Trintignant qui ouvre un livre dans une librairie à Clermont-Ferrand, et hop, il l'ouvre, il tombe sur le Paris. Ensuite, dîner chez Maud, discussion avec Vitesse, en professeur de philosophie. Vitesse dit, bon, il ouvre Pascal, c'est une autre édition, et c'est à nouveau le Paris, ce qui est strictement impossible. Je suis très attachée, par exemple, à l'édition La Fuma, et chaque fois que j'ouvre l'édition La Fuma pour chercher quelque chose, je suis perdue. Donc, voilà, ça commence par l'égarement.
Il y a quelque chose que vous écrivez dans votre livre, Marianne Alphand, Pascal Tombeau pour un ordre, c'est cette idée de calcul. Il était mathématicien et vous écrivez, il y aurait de fantastiques calculs à faire à ce sujet. Calculer la différence de résonance d'un fragment selon qu'il est placé à l'intérieur d'un ensemble ou sur l'un de ses bords, selon qu'il est associé ou non à des fragments traitant du même thème, selon qu'étant bref lui-même, il suit un fragment bref ou bien un long. On a évidemment pas tout compris, mais il y a quelque chose
Oui, il y a quelque chose de musical par moment, comme une espèce, parce que il y a des éditeurs qui ont trouvé que quand ils se répétaient, par exemple, je sais pas, les quatre laquais ou des trucs comme ça, bon, on pouvait supprimer, on éliminait. Alors que non, c'est cette espèce de résonance intérieure qui est tout à fait merveilleuse. On retombe sur des choses qui sont dans un autre contexte et on les lit différemment. On les lit différemment.
Laurent Thirouin.
Oui, on va peut-être se séparer un peu maintenant, même si je suis totalement d'accord sur la notion de quelque chose de musical dans les pensées. Alors j'aime bien la question, peut-on se tromper ? Je crois que oui, on peut se tromper dans les pensées. Les lire en zigzag, bien entendu, n'empêche que Pascal a construit quelque chose qu'on n'a pas connu avant La Fuma, et que bizarrement, on n'a pas trop cherché à exploiter depuis La Fuma. Ça a été une de mes grandes surprises quand je me suis vraiment lancé dans ce travail sur la signification d'Elias. Depuis La Fuma, les bons éditeurs, en gros, les éditeurs respectueux des manuscrits, respectueux de la philologie, font ce qu'on appelle les éditions objectives, et donc toutes les éditions des pensées respectables commencent par l'Elias classé. Et puis après, on fait comme si elle n'existait pas. Par exemple, Pascal a une liasse qu'il a intitulée « Vanité », une liasse qu'il a intitulée « Misère ». Pourquoi a-t-il séparé ces deux séries ? Pourquoi ? Alors, généralement, les commentaires confondent les deux. Il a intitulé une liasse « Divertissement » et, à côté de cela, il parle du divertissement dans toutes les autres liasses du début des pensées. Pourquoi Pascal n'a-t-il pas réuni toutes les pensées sur le divertissement dans une liasse qu'il avait précisément intitulée « Divertissement ». Donc, Pascal a bâti une espèce de dispositif, alors qui n'est pas le plan d'un livre, hein, qui est juste un classement intellectuel. Alors, qui est en effet, je rejoins Marianne Alphand, qui est quelque chose de musical, qui consiste à bâtir une lente musique qui fait réentendre des notes. Mais si on garde votre métaphore de la musique, qui me va très bien, on est bien d'accord que prendre une pièce musicale et classer tous ces éléments, c'est-à-dire mettre tous les do d'un côté, tous les do dièse d'un côté, tous les si bémols d'un autre, ça va donner rien du tout. On sortira complètement de l'œuvre.
C'est cacophonie.
Donc, la musicalité de Pascal n'est pas n'importe quelle musicalité. Il a lui-même donné les éléments d'une musicalité. Et là, ben, il faut se retrousser les manches, il faut essayer de comprendre. Il y a eu des gens qui ont dit « l'Elias classé, c'est pas possible, c'est trop incohérent. Pascal n'aurait jamais fait ça. Brunschvicg, c'est parfait, c'est très cohérent. On s'y retrouve, il y a 14 chapitres, on sait trouver les choses. » Dans l'Elias classé, si je vous demande spontanément comme ça un texte très très connu de Pascal, le texte sur les trois ordres, dans quel Lias, Pascal a-t-il classé les trois ordres ?
Bon, là, vous me piégez totalement, Laurent Thirouin. Mais on va écouter Cyril pour une expérience de lecture, justement. Il est libraire à Lunéville et on écoute comment lui, il a lu et découvert Pascal et comment il s'est aussi arrêté de le lire.
C'était il y a à peu près 10 ans maintenant. Je venais d'interrompre mes études de philosophie. Je lisais avec assiduité Georges Bataille, Léon Chestov, Dostoïevski. Et je pense que ce sont eux qui m'ont amené à la lecture des pensées de Pascal. Je lisais les pensées de Pascal le soir avant de m'endormir pendant une heure. Je lisais toutes les réflexions les unes à la suite des autres jusqu'à en trouver une qui me parle, qui me marque. Malheureusement, c'était systématiquement les plus désespérantes. Et au bout d'une semaine, j'étais dans un état de délabrement moral, dans un état de désespoir profond, et j'ai préféré abandonner ma lecture. C'était comme de subir un ensemble d'attaques très précises, face à laquelle il n'y a aucune défense possible. Tant le style est concis, tant il n'y a rien d'autre que cette vérité métaphysique et brutale. Et j'ai préféré m'interrompre, parce que c'était clairement pas le bon moment pour lire ce livre-là, pas dans ces conditions.
Ça vous surprend, Marianne Alfort, cette expérience de lecture ?
Non, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que, au fond, c'est indirectement une sorte d'hommage à Pascal. Laurent Thirouin en parle très très bien à propos de l'ordre ou de la méthode qu'a suivi Pascal. Au fond, Pascal ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Ça, pour lui, l'existence de Dieu n'est pas atteinte par la raison, par la preuve, mais par le sentiment. Et donc, ce qu'il essaye de déployer, si je puis dire, c'est une méthode, c'est une argumentation qui touche. Les pensées, quand Pascal imagine peut-être comment il va s'y prendre, ordre, écrire une lettre, commencer de telle ou telle façon, on sent que ce qu'il cherche, c'est à s'adresser à quelqu'un. D'ailleurs, l'adresse, elle est claire dans le pari. Laurent Thirouin, vous en avez très bien parlé. Le fait que Pascal s'adresse, au fond, c'est un ton qui est très personnel, qui est celui des Essais de Montaigne, par exemple. Du coup, je pense que celui qui vient de s'exprimer sur sa lecture de Pascal, il a été touché. C'est ce que voulait Pascal. Mais il a été touché d'une façon peut-être excessive, ou en tout cas, comment dire, il a correspondu à un mauvais moment.
Dans sa vie.
Oui, de la vie de ce lecteur.
De ce lecteur.
Voilà. Parce que, il nous touche pour de toutes sortes de manières. Et pas nécessairement, il n'affecte pas en nous ce qui est le plus, au fond, le plus désespéré. D'ailleurs, le pari se termine sur des accents de joie. Et Laurent Thirouin en parle très bien.
Laurent Thirouin, je vais vous donner un défi. Je suis désolé, on arrive quasiment au terme de l'émission. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous donner une manière d'entrer dans les pensées de Pascal ? Comment faut-il lire les pensées de Pascal ?
Voilà, le mot que cherchait Marianne Alfant, que j'avais lui suggéré, c'est une lecture partielle. Parce que moi, mon expérience, c'est d'un auteur qui m'euphorise. Je le trouve, il est désespérant et il est consolateur en même temps. Donc, je réponds précisément à votre question. Il faut le lire en acceptant le principe de contradiction qu'il a mis au cœur de son propos. C'est-à-dire que, évidemment, il parle de misère, mais en même temps, il parle de grandeur. Évidemment, il parle de tristesse, mais en même temps, il parle de joie. Or, chaque fois qu'on sort une pensée, qu'on la sort de son dispositif, on donne une tonalité au texte, alors que le texte de Pascal est extraordinairement contradictoire et paradoxal. Il veut nous toucher, mais nous toucher en créant de l'énigme, en créant de la surprise. Il ne veut pas nous déprimer. En fait, il nous déprime par moments, mais à peine nous a-t-il déprimé, qui devient exaltant. Donc ça n'est pas... J'aime beaucoup la remarque du lecteur que vous entendez, mais à mon avis, c'est une lecture pauvre, insuffisante. Il a vu qu'une toute petite partie des pensées de Pascal.
Et donc, il faut lui conseiller, évidemment, de relire Pascal ou de lire l'un de vos deux ouvrages. Et je vais les citer. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Laurent Thirouin. Je rappelle la nouvelle édition augmentée de votre essai, Pascal ou le défaut de la méthode, lecture des pensées selon leur ordre. C'est aux éditions Honoré Champion. Merci beaucoup, Marianne Alfond, d'être venue dans le studio de France Culture. Pascal, tombeau pour un ordre, reparaît aujourd'hui aux éditions POL en format poche. Il y avait beaucoup de choses encore à dire, mais on renvoie évidemment à vos deux ouvrages. Merci à vous. L'épilogue dans un instant, mais d'abord Charles Danzig.
Quand peut-on rire d'un drame ? Après qu'il est passé, il se produit toujours une ouverture temporelle où cela devient possible. Françoise Sagan, cette boulevardière à calcul mélancolique, a écrit un roman humoristique sur la période de mai et juin 40. Probablement, à cause de ce qui s'est passé alors, le mot « exode » a acquis une signification nouvelle dans l'expression « l'exode de 1940 ». Avant cela, et sauf erreur, il ne comprenait pas l'idée de « retour » puisqu'il s'appliquait uniquement à la sortie d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse. Les Juifs, au contraire des Français du Nord, ne sont pas revenus à leur point de départ. Les faux fuyants racontent le départ pendant l'exode pour le Portugal de quatre Parisiens snobs et frivoles à l'intérieur d'une voiture de luxe. Il leur arrive des aventures bouffonnes. Qui dit que des aventures bouffonnes ne se sont pas produites pendant l'exode? L'idée de drame est trop élégante. Quand les drames arrivent, il survient aussi des moments maladroits, mesquins ou cocasses qui sont la vie même. Rien à voir avec des somptueuses robes de reine traînant dans un palais ensanglanté que l'on se plaît à décrire a posteriori pour anoblir notre passé. Je disais dans l'avant-dernier volet de ce quadritème que la tenue a manqué à Bordeaux en 40. L'un des personnages du roman de Sagan dit « Quitte à mourir mitraillé, autant mourir poliment ». Déjà que tout craquait en France, si le vernis en faisait autant, on était fichu. La littérature porte assez peu sur les gens qui se tiennent bien, parce qu'il n'y a rien d'autre à en dire que ils se sont bien tenus. La fiction, comme l'histoire, se fait avec du manqué, du mauvais, du fou. La voiture des faux fuyants, mitraillée par les Stuka, verse et voici les personnages dans une ferme où ils ne comprendront pas grand-chose à la boue, aux oies, aux percherons. C'est un roman de 1991. Il n'aurait pas été possible en 1945, ni même en 52. C'était l'année du film « Jeux interdits » qui débute lui aussi par des mitraillages pendant l'exode, mais pour nous raconter une histoire sentimentale. On vivait encore le résistentialisme. Il était d'autant plus intransigeant qu'il permettait à certains de se repeindre aux bonnes couleurs. Et puis, bien sûr, le sang restait frais et la douleur vivace. C'est quelques années plus tard que l'humour a pu arriver. En 1959, dans le film « Babette s'en va en guerre », Bardot peut tomber entre les mains d'un gestapiste surnommé Papa Schultz. Cela durera jusqu'à « Papy fait de la résistance », pièce de 1981, film de 1983 et au roman de Sagan. Le regard sur la guerre s'est ensuite orienté ailleurs. En 1993 avait lieu la tentative de procès envers Bousquet, lequel fut opportunément assassiné cette même année pour, qui sait, couvrir Mitterrand. 1997, procès Papon. On découvrait un autre pan de la guerre qu'on n'avait pas approfondi jusque-là, la Shoah et les collabos camouflés. Il aurait paru inconvenant de plaisanter. Pensez à un autre pays, à une autre guerre, à une autre œuvre d'art. C'est près de 20 ans après la guerre de Corée que Robert Altman l'a satirisé dans MASH. Comme les Américains sont beaucoup moins au garde-à-vous que les Français, c'était pendant la guerre du Vietnam que visait par ce biais le satiriste de premier ordre qu'était Altman. Peut-on dire qu'un pays n'est tranquille avec son histoire que si, après avoir souffert, il a su en rire ?
Et demain, nous retrouverons Mathias Sédard pour ses Zinkipit. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Zora Vigny, Joanna Grappard, Didier Pinault et Alexandra Laibegovitch. C'est Colin Gruel qui réalise cette émission et à la prise de son ce midi, Florent Bujon. Nous tournons ensemble la dernière page du jour. Voici l'épilogue.
Une espèce d'autre mini-catastrophe, c'est que le silence éternel, ces espaces infinis mais frais, bon...
C'est quelque chose d'ahurissant. On va peut-être se séparer un peu maintenant.
Je ne veux pas qu'on m'aime.
Le problème, c'est de savoir ce qu'on met derrière.
Bon, on verra après.
Oui. Alors, je dirais d'abord, c'est exaltant.
Pascal est là.